Bonjour à chacun, à chacune. Et ouvrons le Saint-Livre. Ouvrons le Saint-Livre dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 10. Avez-vous envie d'entendre la pensée du Seigneur? Est-ce que c'est quelque chose de sérieux pour vous? Est-ce que vous voulez entendre une belle prédication? Ou est-ce que vous voulez entendre vraiment la pensée de Dieu pour chacun d'entre vous? Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Vous voyez que c'est important de connaître la pensée de Dieu. Paul est en prison. Il est en prison quand il écrit ce qu'on vient de lire. Il ne dit pas « Priez pour moi, pour que je sorte de prison ». Il savait que ce qu'il était en train de traverser faisait partie du plan de Dieu. Il demande quelque chose qui correspond à son ministère. Priez pour moi quand j'annonce la parole de Dieu. Quel est l'effet qu'elle doit avoir dans les cœurs? Et voyez, on peut prier par rapport à des choses qui nous semblent être un besoin. Ou on peut ne pas prier du tout. Lisez avec moi maintenant dans le psaume 78. Dans le psaume 78, c'est un long psaume. Il a 72 versets. Il explique beaucoup de choses qui se sont passées dans le peuple d'Israël. On peut lire, on va pas tout lire, mais on va lire tiens, du verset 5 au verset 9. Rien que ces quatre versets nous montrent combien Dieu veut que sa parole soit un témoignage pour nous et pour nos enfants. Vous les jeunes, je m'adresserai aux jeunes, est-ce que vous voulez vous marier? Est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que vous voulez que vos enfants soient sauvés? C'est pas grave si vous répondez pas, mais c'est quand même important. Est-ce que vous espérez avoir des enfants? Est-ce que vous voulez que vos enfants soient sauvés? Psaume 78, verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob, une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. C'est un ordre, c'est pas une suggestion. Il a ordonné. Pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu, qu'ils observent ses commandements. Regardez bien les deux versets qui suivent. Regardez bien. Ce sont des choses profondément graves. Afin qu'ils ne soient pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu, les fils d'Éphraïm, c'est le peuple d'Israël, les fils d'Éphraïm, armés et tirants de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Pour moi, c'est une des paroles les plus tristes à lire. Des hommes compétents, aptes, formés, excellents, qui ont tourné le dos le jour du combat. Depuis le mois de décembre, nous articulons régulièrement toute notre exhortation sur l'importance de retrouver le repos, parce que beaucoup de chrétiens ont perdu le repos. Vous avez entendu la prophétie? Il y a même des chrétiens qui cherchent la joie dans des achats compulsifs, en espérant que d'obtenir davantage de choses de la terre vont leur procurer de la joie. Que les gens du monde le fassent, c'est normal. Mais que les chrétiens en reviennent à chercher dans les choses de la terre de la joie, vous avouerez que ça fait quand même de la peine. Et c'est la vérité. Le repos, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un chrétien, un homme qui cherche Dieu, et un chrétien de surcroît, obtient ce repos, parce que Dieu le donne, c'est le repos du salut, parce que Dieu donne le repos, je vous donnerai le repos. Puis, ce repos est entretenu, et il y a un deuxième repos que j'appelle le repos de la foi, que l'on trouve lorsque l'on reçoit ses instructions. Vous savez ce qu'a dit Jésus, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Pour ceux qui découvrent l'évangile, je rappelle qu'il y a deux repos, un repos que Dieu donne, c'est un don, il n'y a qu'à dire merci, et un repos que l'on trouve lorsque l'on reçoit les instructions. Lorsque l'on les reçoit, bien sûr, et qu'on les met en pratique. Beaucoup de chrétiens sont angoissés. Il peut y avoir une angoisse passagère liée à une épreuve. Mais beaucoup de chrétiens sont continuellement dans l'angoisse, continuellement dans la crainte, parce qu'ils ne sont pas sérieux avec les instructions. J'ai prié, vous le comprenez. On ne prêche pas, on ne monte pas sur une estrade pour monter sur une estrade. On prie pour que Dieu nous donne une pensée qui va nous permettre à chacun de savoir exactement où nous en sommes avec Dieu. Il y a des chrétiens, ça nous brise le cœur, qui ne sont plus dans la volonté de Dieu. À Toulouse, il y a des milliers de gens qui devraient être aujourd'hui dans des lieux de culte et qui sont en train de faire la grâce matinée, en train peut-être de faire du tennis, je ne suis pas contre ça. Mais je suis en train de dire que beaucoup d'hommes et de femmes qui avaient donné leur vie à Dieu ne sont plus à leur place. Pourquoi certains chrétiens sont redevenus charnels? C'est une question qui nous préoccupe, à nous, les pasteurs. Pourquoi certains n'ont accepté Jésus que comme sauveur? Ça aussi, c'est un drame. À la place d'accepter Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens, Jésus est leur sauveur, ça fait pas l'ombre d'un doute, mais il est hors de question de porter la croix. Il est hors de question de prier, ou alors c'est du bout des lèvres, que ta volonté soit faite. Certains s'imaginent qu'ils sont chrétiens. Ça aussi, dans nos réunions, j'ai dit hier à quelqu'un, mais c'est grave ce que je vais vous dire. C'est grave, écoutez bien. Et ne rie, que personne ne rie. Il y a un pasteur qui a demandé à un inconverti de présenter la Sainte Cène. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Demander à quelqu'un qui a pour père le diable de présenter dans une église assemblée de Dieu la Sainte Cène. Et le gars, bien sûr, mais le gars tout simple, a dit, écoutez, je ne suis pas converti, mais le pasteur m'a demandé de... Moi, j'aurais refusé, je pense. Enfin bon, je ne sais pas. Mais c'est pour vous dire où on en est arrivé dans le corps de Christ. Alors, nous connaissons la parole de Dieu. Nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons des textes mieux que d'autres. Par exemple, les 7 textes où Jésus, c'est lui, il n'y a que lui qui en parle, où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents. Il n'y a que Jésus qui parle des pleurs et des grincements de dents à 7 reprises, dans 7 contextes différents. J'ai déjà fait une prédication là-dessus. Et par exemple, dans la parabole des talents, il parle de ce serviteur qui a enfoui, un serviteur, un chrétien, qui avait enfoui un talent au nom de plein d'excuses. Jésus va appeler ce serviteur et va lui dire que tu es un paresseux. Mais la paresse, pour nous, ce n'est pas grave, la paresse. Pour nous, ce n'est pas grave. C'est comme pour les vierges qui ont négligé de l'huile. Nous, on dit, ce n'est pas grave, c'est de la négligence. Jésus est beaucoup plus sévère avec ce que l'on pense. Et Jésus dit à ce serviteur, serviteur méchant et paresseux, tu seras jeté dans les ténèbres des dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est moi qui le dis ou c'est Jésus qui l'a dit? C'est le Seigneur, c'est des choses fondamentalement profondes, fondamentalement sévères. Pourquoi? Parce que ce chrétien a été paresseux. Dans une assemblée, quel que soit le nombre, qu'il y ait 30 membres, qu'il y en ait 300 ou qu'il y en ait 3000, tout le monde doit trouver sa place. Il ne doit pas y avoir de défection au niveau de la présentation de la Sainte Cène, etc. etc. S'il manque des préparateurs de Sainte-Cène, c'est que des personnes n'obéissent pas à Dieu. Ne nous mettons pas à penser que ceci, que cela. Mais moi, c'est peut-être notre faute. C'est peut-être nous qui n'enseignons pas bien la parole de Dieu. Je pense qu'un certain pourcentage, c'est quand même les hommes de Dieu qui n'apportent pas la pensée de Dieu. Je ne veux pas couper la poire en deux, mais il n'empêche que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'il faut faire, parce que nous, les pasteurs, nous n'apportons pas la parole comme nous le devrions. Quoique, même si le pasteur ne va pas bien, je suis persuadé que chaque chrétien peut recevoir dans son cœur la pensée de Dieu par rapport à ce qu'il doit faire. Parce que Dieu est juste et votre service ne va pas dépendre que de la spiritualité du pasteur. Je crois que le service de quelqu'un dépend de la communion qu'il a vraiment avec le Seigneur. Si je le résume, ce que je viens de dire, nous pouvons en déduire ce qui est prophétisé, que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi. Pas les églises, la foi. Parce que le diable n'en a rien à faire qu'on aille à l'église. Le diable, ce qu'il veut, c'est qu'on abandonne la foi. Parce qu'est-ce que ça fait qu'on aille à l'église si on a perdu la foi? Ça fait rien de plus. Au contraire, on est une pierre d'achoppement. Et on ne fait pas l'œuvre de Dieu, on fait l'œuvre de l'ennemi. Beaucoup de gens en sont là, c'est triste à dire. Beaucoup de chrétiens, comme on vient de le lire dans le psaume 78, verset 9, ils ont tourné le dos au combat. Ils sont armés, ils sont experts. Si vous lisez plusieurs versions, vous allez être étonnés de voir combien Dieu veut que l'on comprenne que ce sont des gens qui sont experts dans le combat. Ils sont experts dans le combat et pourtant, ils ont tourné le dos. Ils sont capables. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont capables de nous faire la leçon, capables de dire « mais il faudrait faire ceci, il faudrait évangéliser de cette façon-là, et ils ne se tromperont pas, et il faudrait qu'on ait davantage d'évangélisation. » Mais on ne les verra jamais à l'évangélisation. Ce n'est pas un procès que je fais, parce que c'est trop grave. Mais vous avouerez qu'on a des chrétiens capables, experts, et pourtant, ils ont tourné le dos au jour du combat. C'est très très grave. Ils sont nus. Comme dit Jésus dans l'Apocalypse, tu ne sais pas que tu es nu. C'est une parole que le Seigneur peut adresser à plusieurs. Ce n'est pas moi. Moi, vous savez, je me pose beaucoup de questions par rapport à ce que je dois apporter. Parce que je sais que dans mon cœur, il peut y avoir ma pensée, celle que j'ai, qui est bien sûr biblique, mais ce n'est pas parce que j'ai une pensée biblique qu'elle est forcément adressée à l'Église. Ce que nous devons tous comprendre, c'est que nous devons entendre uniquement ce que Dieu veut adresser à l'Église. Le désir d'un pasteur, je pense, de tous les pasteurs, c'est que quand il se présentera devant Dieu, quand les églises se présenteront devant Dieu, les églises qu'il aura à charge, c'est que les gens soient sauvés. Vous imaginez si quand je passe devant le Seigneur, Dieu me dise « voilà, tu as été pasteur à Groyer, dans l'église de Groyer, il n'y a que 10% de personnes qui sont sauvées ». Est-ce que vous imaginez le chagrin que l'on pourrait avoir de savoir que 10% seulement des chrétiens seront sauvés? Je parle de pourcentage parce que Jésus parle de pourcentage lorsqu'il prophétise la parabole des 10 vierges. Ça serait terrible. Tu as été pasteur à Toulouse-Sainte-Agne, il n'y a que 3% des chrétiens qui sont sauvés. Est-ce que vous pensez que ça me ferait rire? Non. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut arriver que tous les chrétiens d'une église soient sauvés? Oui, moi je le crois. Mais je ne veux pas vivre dans l'utopie et j'ai bien peur que dans l'Assemblée, beaucoup de chrétiens aient tourné le dos au jour du combat. C'est une affaire sévère, c'est une affaire sérieuse et je voudrais que vous écoutiez vraiment la suite. Alors comment c'est possible? Comment cela est possible que tant de chrétiens s'endorment? Est-ce que c'est possible que des chrétiens s'endorment? Ben oui, mais vous le savez. Ben c'est facile à comprendre. Parce qu'on peut bien sûr dire, mais comment ça se fait, tata? Mais regardez comment s'y est pris le serpent dans le jardin d'Éden. Alors qu'Adam et Ève étaient dans un environnement un peu plus que parfait. Est-ce que franchement, Adam et Ève étaient dans un environnement parfait? Est-ce qu'Adam et Ève avaient été traumatisés par un père alcoolique, etc.? Est-ce que oui ou non? Bon, ils étaient dans un environnement. Parce que c'est facile de dire oui, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, mon père était un alcoolique, ma mère était violente. C'est trop facile. Je sais que ça doit procurer beaucoup de souffrance. Mais, mes frères et sœurs, il ne faudrait pas que nous nous assoupissions spirituellement en mettant la faute sur les gens qui ont été au-dessus de nous. Adam et Ève étaient dans un environnement parfait, totalement parfait. Et pourtant, que vous le vouliez ou non, ils ont préféré la parole de Satan à la parole de Dieu. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous êtes converti, vous savez que c'est vrai. Je n'exagère rien. Ça veut dire que le doute l'a emporté sur la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont préféré la parole de Satan. Et la question que l'on peut se poser, si on argumentait pendant un quart d'heure sur cette affaire, maintenant, c'est de pouvoir nous poser tous ensemble cette question, mais qui écoutons-nous? Qui écoutons-nous? Est-ce que nous écoutons le Saint-Esprit qui a des choses à nous dire, à nous redire, à nous re-redire? Je pense que quelqu'un de humble n'est pas gêné si le Saint-Esprit vous dit pour la 50e fois quelque chose. Au contraire, vous bénissez Dieu pour sa patience, parce que les hommes, eux, ne le feraient pas. Mais qui écoutons-nous? C'est une question que chacun d'entre nous, que nous ayons 3 mois de conversion, que nous ayons 50 ans de conversion, nous devons nous poser cette question. Mais qui écoutons-nous? À qui obéissons-nous? Écoutons-nous la voix de Dieu qui nous demande ceci ou cela? Ou écoutons-nous le serpent qui, bien sûr, avec finesse, nous dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que c'est la peine d'en faire tout un plat? Est-ce que... Parce que le diable, vous savez, il a ses mots fins et subtils pour qu'on arrive à dire, à ne pas dramatiser, ne soyez pas trop sectaire. Je ne suis pas sectaire, je ne suis pas légaliste, je m'applique à partager avec vous la parole de Dieu. Alors on va lire un texte dans l'évangile de Luc, où Jésus donne ce qu'il faut faire pour sortir de cette affaire. On a lu dans Éphésiens chapitre 6, mais dans l'évangile de Luc, il y a une parabole. C'est une parabole que Jésus a voulu donner à l'Église, qui se termine avec une question à laquelle nous devons répondre. C'est une parabole qui nous enseigne ce qu'il faut faire. Et je vous supplie, réellement devant Dieu, parce que je pense moi au jour où je passerai devant le Seigneur, je vous supplie de répondre à cette parabole. Faites-le consciencieusement, c'est entre vous et Dieu. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, dans le ciel, ça va arriver des millions de fois, des chrétiens vont pointer le doigt sur le pasteur et dire, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi tu n'as pas insisté? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai qu'il y a des gens qui vont être en enfer et qui vont dire, mais pourquoi tu ne nous as pas dit de nous repentir? C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que vous pouvez dire, bon, tu images, mais d'accord, je le dis mal, c'est possible, mais c'est ce qui arrivera. Que des gens seront furieux parce que les pasteurs n'auront pas dit aux auditoires « Tu aurais dû faire ci, vous auriez dû vous repentir. » C'est vrai ou c'est pas vrai? Ce sont des choses qui vont arriver. Alors là, il y a un enseignement, c'est Jésus qui parle. C'est pas... Bien sûr que nous, on pourrait, inspiré par le Saint-Esprit, reproduire un peu le même enseignement. C'est possible, c'est heureusement. Mais on ne peut pas douter un instant que ça soit vraiment la volonté de Dieu pour qu'il y ait de la foi dans les églises quand Jésus reviendra. Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Ça ne veut pas dire être 24 heures sur 24 à genoux, ça ne se tient pas debout. C'est un état d'esprit. Et ne pas se relâcher. Voilà. Le Seigneur, il donne cette parabole. Alors, il donne l'enseignement, il aurait pu ne pas donner la parabole. Il dit, il explique. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. C'est peut-être ces 4 mots qui nous gênent le plus. Parce que pendant longtemps, Dieu peut nous refuser. Il faut l'accepter. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard ?» Première question. « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Ne vous inquiétez pas, la justice elle sera faite. Ici-bas ou là-haut, c'est pas grave. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Voilà la question que Jésus pose, il la pose, c'est déjà une grâce que Dieu pose ces questions. Ça vous embarrasse la question ou vous trouvez merveilleux que Jésus vous la pose la question? C'est bien parce que quand même ça prouve qu'une question nous prouve, oui merci Jérémy, une question nous prouve que le Seigneur veut établir la communion avec nous. Parce qu'il sait très bien la réponse le Seigneur. Est-ce que Jésus a besoin de poser la question? Bien sûr que non, mais c'est nous qui avons besoin de la question. C'est nous qui avons besoin de la question pour rétablir la relation avec lui et surtout pour comprendre. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle réponse donnons-nous? Quelle réponse donnez-vous? Cette foi vivante, cette foi qui amène un vrai combat. Je ne parle pas de cette foi qui est limitée à la présence d'un culte, à lire un peu la Bible, à venir dans une assemblée. Je ne parle pas de cette foi-là. Je parle de cette foi vivante, cette foi qui amène le bon combat. Je voulais demander au meneur de chant, je ne savais pas que c'était mon fils, je voulais demander au meneur de chant, prends le texte, le cantique, Dieu a une armée qui se lève. Je voulais lui demander au meneur de chant, je ne savais pas que c'était mon fils. Dieu, il l'a pris. Mais je voulais le prendre, non pas pour qu'on le chante, mais pour qu'on réalise ce qu'on chante. Est-ce que Dieu a vraiment une armée? Est-ce que nous sommes cette armée que nous venons d'évoquer par ce cantique? Cette foi, bien sûr que nous avons tous une mesure de foi, nous ne serions pas là. Quelqu'un peut me détracter en disant, voilà, mais monsieur Gauss, si on est dans l'église, on a la foi. Mais bien sûr, mais je ne parle pas de cette foi qui croit en Dieu, je parle de cette foi qui remporte des victoires, cette foi qui fait reculer les ténèbres, cette foi qui amène la vie de l'Esprit dans l'Église, cette foi que nos enfants connaîtront la puissance de Dieu. Hier, il y a une jeune femme qui m'appelait d'une église, d'une grande église, et qui me disait, hier soir à la réunion de prière, j'étais la seule jeune de l'Église, la seule jeune. Et je crois que Dieu a permis que cette jeune femme m'appelle. Et cette femme, elle était catastrophée. Parce qu'elle me dit, vous rendez compte, dans cette grande église, j'étais la seule jeune fille à prier pour le salut des âmes, pour nos enfants. Et je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes. Parce que les aînés, sans vouloir les insenser, ont persévéré, pas tous, mais beaucoup quand même ont fait leur preuve. Mais aujourd'hui, dans les églises, on ne voit plus de jeunes. Et moi, je vous assure que vos enfants ne se convertiront pas si vous ne combattez pas le bon combat de la foi. Voulons-nous cette foi? Parce que Jésus pose la question, elle est solennelle, c'est une question, il faut y répondre. Ça serait vraiment de l'incorrection de ne pas répondre à cette question. Il ne dit pas, est-ce que je trouverai des chrétiens à l'église? Parce que des chrétiens, il y en aura toujours. Les gens n'abandonnent pas les cultes. Les gens, ils abandonnent Dieu. Vous avez dit, mais ça va pas en ça. Eh oui, vous lirez, mardi soir, on verra dans l'Ancien Testament. Je vous demande, s'il vous plaît, de venir. Vous savez, là, je me suis posé la question ce matin. J'étais en train de prier, je n'ai pas beaucoup dormi. Et je dois faire attention, puis par rapport à l'AVC, tout ça, je dois faire attention à mon cerveau. Mais en même temps, j'ai ce fardeau. Et je priais. Et je dis, mais Seigneur, est-ce qu'il faut que je dise ça? Est-ce que ça ne vient pas de moi? Est-ce que ce n'est pas ma pensée? Est-ce que ce n'est pas moi qui veux, par mes forces, amener certaines choses dans l'Église? Et je vous assure, le Saint-Esprit m'a dit non, mais je veux que les hommes prient. C'est écrit ou ce n'est pas écrit? Est-ce que c'est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8 ou 9? Je veux que les hommes prient. C'est des choses... Mais quand on a donné son cœur à Dieu, ça ne nous choque pas. C'est quand on a... accepter Jésus que comme sauveur que ça nous dérange, parce qu'on se rend compte que la croix de Christ fait son œuvre en nous, et on se dit, ah bon, il faut que je prie, mais moi on m'a dit que j'ai la liberté, mais comme l'a dit un chant, comme l'a dit une prophétie du gars de Clameur, je demande, mais est-ce que vous croyez qu'il y a de la joie dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a de la joie dans la présence de Dieu? C'est quand même une question qu'on peut poser. Bon, c'est biblique, il y a d'abondante joie. Je ne vais pas prendre les versets qui nous parlent de ça. Mais si l'ennemi a réussi à faire en sorte que vous ne priez pas, c'est qu'en vérité, vous avez écouté sa voix. Si vous ne croyez pas qu'il y a beaucoup de joie, une vraie joie, dans la présence de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui combattent. Moi, j'ai parlé du repos, mais le repos, on va continuer, parce que c'est un sujet qui me préoccupe, car je sais qu'on ne peut vraiment bien combattre que si on est bien dans sa tête, si on est bien dans sa foi, si on est bien dans sa peau, comme on dit. Et un chrétien doit vivre dans le repos, c'est ce que Jésus a dit. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Et pourquoi des chrétiens font que des bêtises? Parce que justement, ils combattent sans être dans le repos. Mais une fois qu'on est bien avec Dieu, on ne peut pas ne pas faire son œuvre. Et le problème, ce n'est pas de dire à quelqu'un, fais ceci, fais cela. Mais quand quelqu'un a une relation avec Dieu, il sait ce qu'il doit faire. Et il a à cœur de le faire. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il une église digne de ce nom? L'autre jour, j'ai regardé une information au Brésil. Au Brésil, il y a des églises boîte de nuit. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je me suis dit, je comprends pourquoi il y a le réveil au Brésil. Vous l'avez vu, ça? Vous l'avez vu, ça? Non, mais je veux dire, je ne sais pas s'il faut rire, je pense qu'il faut pleurer.
Vous l'avez vu cette émission? Mais c'est un truc de fou. Si, je ne sais pas si vous réalisez, si vous ne l'avez pas lu en streaming, je pense que vous pouvez la voir cette émission. Mais ça fait... Bon, ne perdez pas de temps. Lisez la Bible.
Des combattants. Est-ce que dans cette assemblée où Dieu nous a placés, parce que bon, il y a le corps de Christ, et moi je voudrais que dans toutes les églises et dans toutes les dénominations, tout le monde prie. Mais s'il y a des choses que vous ne savez pas, je ne peux pas dire, tiens, monsieur Untel, vous devez chanter à la chorale, parce qu'il manque des ténors. Donc, monsieur de Dieu, je pourrais faire un ténor. Mais c'est pas grave ça, s'il y a trois ténors ou deux à la chorale. Mais par contre, l'église doit être une maison de prière. Et à partir du moment où quelqu'un vient dans une église, accepte Jésus-Christ, il devient un intercesseur. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Puisque le seul nom que Jésus donne à l'église, le seul nom, lui qui est grand, il aurait pu donner quand même plusieurs noms à l'église. Il ne donne qu'un nom, ma maison sera appelée une maison de prière. Et c'est pour ça que j'ai commencé, enfin presque commencé, avec cette question, mais qui écoutez-vous? Qui écoutons-nous? Écoutons-nous la voix du Seigneur qui veut que sa maison soit une maison de prière? Ou écoutons-nous la voix de l'ennemi qui nous dit, mais non, ne te prends pas la tête, l'œuvre de Dieu se fera, on l'a chanté, Dieu règne. Oui, Dieu règne, si vous lisez bien la Bible, vous le savez, Dieu règne, mais pas sur le péché. S'il y a du péché, il faut le régler. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Quand le Fils de l'homme viendra, parce qu'il va revenir le Seigneur, et puis même s'il ne revient pas de notre vivant, il faudra quand même un jour passer devant lui. Oui ou non? C'est une affaire importante. Est-ce que c'est important pour vous le jour où vous allez passer devant Dieu? Ou c'est plus important la lettre que vous avez reçue du maire, que vous avez, où il y a déjà, oh monsieur Go, le maire m'a écrit. J'ai une lettre, mais c'est bien, c'est bien. Mais moi je trouve qu'il y a une grande lettre dans la Bible. Et on va comparaître devant le grand directeur de l'univers. Moi je pense que ça vaut la peine, vraiment ça vaut la peine, de se remettre à écouter notre Père Céleste, et non pas le père du mensonge. Une église capable de faire reculer les ténèbres, est-ce que c'est possible? Mais bien sûr, avec le Dieu que l'on a, une église capable de faire reculer les ténèbres, les démons, parce qu'il y a des démons. Une église qui lutte, qui combat. Est-ce que vous croyez vraiment toujours dans la prière? Ou c'est vrai, des fois, moi, des chrétiens, oh, la prière, moi, mais prier, mais pourquoi prier? Mais pourquoi prier, monsieur Go? Mais j'ai tout ce qu'il faut, j'ai ma maison, elle est payée, j'ai la santé, j'ai un boulot. Mais pourquoi voulez-vous que je prie? Justement, si on a tout ça, merci Seigneur. On devrait peut-être être encore plus disponible pour prier. Mais quand vous entendez ça, moi je me pose des questions. Quand quelqu'un ne sait même pas pourquoi prier, je pense quand il ne voit pas pourquoi il faut prier, c'est qu'il c'est un aveugle. Je le dis, à partir du moment où quelqu'un entre dans le royaume de Dieu, il devient un intercesseur pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Est-ce qu'une fille de la rue peut louer le Seigneur et dire « Seigneur, je te loue parce que tu es en train de t'occuper de mon âme » Est-ce qu'une fille de la rue peut prier? Tout le monde peut prier. À part, bien sûr, si un responsable qui vit dans le péché, là, il faut mettre de l'ordre. Ça, c'est biblique. Mais tout le monde doit prier. Ma maison est une maison de prière. Et l'ennemi, vous avez vu, avec une seule question, Dieu a-t-il réellement dit, il a réussi. Il a réussi à ce que le doute prenne le dessus sur la foi. Dans le royaume de Dieu, le doute n'est pas accepté. Quelqu'un qui doute, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. On doit prier avec foi. Et pour prier avec foi, il faut savoir ce que Dieu veut. Quand on dit « Seigneur, sauve tous les rétrogrades de Toulouse », vous n'avez pas besoin de douter, Dieu est avec vous. Est-ce que c'est la volonté, monsieur Go, que les rétrogrades reviennent? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'un rétrograde revienne à l'Église? Ce n'est pas une victoire, c'est une double victoire quand un rétrograde revient. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que des Toulousains soient sauvés? Les jeunes, est-ce que c'est la volonté de Dieu que quand vous aurez des enfants, ils soient tous sauvés? Si Jésus tarde, que deviendront nos enfants s'il n'y a aucun jeune dans l'église en train de prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura le culot de me dire « Ah mais moi, monsieur Gaulle, le mardi, je n'ai pas le temps ». Je vous en supplie, mais je vous en supplie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Arrêtez, je vous en supplie, de chercher des excuses. Parce que vous allez vous entendre dire, je ne te connais pas, méchant et paresseux serviteur. Parce que pour trouver 2 heures, s'il faut aller 2 heures, manger une super viande grillée, 2 heures pour aller au cinéma,
Mais là, c'est bizarre qu'on n'ait pas crevé. Alors, on n'a pas jugé. Mais ça vous montre les centres d'intérêt. Moi, je comprends que quelqu'un ait envie d'aller se balader, d'aller faire du vélo dans une forêt, que quelqu'un ait envie d'aller voir un bon film. Il doit y en avoir encore. Est-ce que c'est interdit d'aller voir un bon film? Est-ce qu'on peut avoir de la joie à voir un bon film? Mais mes frères et sœurs, quand on n'a plus de joie à aller dans la maison du Seigneur, quand on a été capable de ne plus avoir envie d'aller prier, une heure avec des frères et des sœurs. On a une sœur dans l'église qui prie pour son mari depuis 40 ans, je ne sais pas si elle est là. Son mari est malade, il y a de fortes chances que cet homme parte, il n'est pas converti. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine de prier pour cet homme? Est-ce que ça ne vaut pas la peine, Seigneur, sauve cet homme avant qu'il ne parte? Est-ce qu'on ne peut pas prier pour cet homme? Mais est-ce qu'on ne peut pas prier pour les frères et sœurs au Mali? Oh, mais au Mali, j'ai jamais été, moi, au Mali. Mais ce n'est pas la peine, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on ne peut pas prier? Vous avez vu ce que... À Gao, il y a eu des églises. Monsieur Bordeneuve, il a ouvert une église à Gao. On n'y pense pas, il y a 10 ans, 10 ou 15 ans. À Alep, en Syrie, il y a 64 églises chrétiennes. Presque toutes ont été détruites. Comme par hasard. C'est drôle qu'ils aient bombardé par hasard le nord d'Alep, où sont situées presque toutes nos églises. Quel hasard. Peut-être que ça ne vous préoccupe pas, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être qu'on n'a pas fait notre boulot de vous enseigner. Mais mes frères et sœurs, est-ce qu'on ne peut pas donner une heure? Je sais que c'est difficile de se garer, mais est-ce que s'il y avait un super restaurant là qu'on nous invite, est-ce qu'on ne viendrait pas? Est-ce que l'église, ce n'est pas mieux que le restaurant? Est-ce que ce n'est pas important que quand Jésus revienne, il trouve des chrétiens qui ont vraiment la foi? La foi, c'est la confiance. La foi, c'est croire que Dieu agit toujours. Est-ce que vous croyez à la prière? Je pourrais faire 10 prédications sur le fait que des chrétiens ne croient plus à la prière. Croyez-vous que Dieu exauce? Ah oui, je crois que Dieu exauce. Mais pourquoi on ne prie pas? Pourquoi on ne prie plus? Pourquoi il y a des prières si timides? Pourquoi des hommes ne prient pas? Vous allez me dire, mais il faut que ça vienne du cœur. Oui, mais je crois que c'est une question d'obéissance. Je crois que ceux qui prient ne prient pas parce qu'ils sont moins timides que les autres. Je crois que ceux qui prient ont pris la décision de prier. Est-ce que ceux qui prient sont meilleurs que ceux qui ne prient pas? Mais bien sûr que non. Est-ce que ceux qui font une activité sont meilleurs? Non, c'est qu'ils ont pris la décision de le faire. Parce que je crois que Dieu répond à la prière. Alors, mes frères et sœurs, mardi, je veux vous expliquer. Vous rappelez quand Dieu a dit, quand même, c'est Dieu qui a dit, quand le temple a été inauguré, là seront mes yeux et seront mon cœur. Chaque fois que quelqu'un viendra, parce que Salomon, il avait prié dans ce sens, et donc Dieu va aller l'aiguiller, ben d'accord. Chaque fois que quelqu'un viendra prier, ben je l'exaucerai. Quand il aura péché, quand il aura fait ceci, quand il aura fait cela, et bien qu'il priera de tout son cœur, je l'exaucerai. Il y aura toujours mes yeux et mon cœur sur le temple. C'était pas une bénédiction? Et vous savez comment il a fini le temple de Jérusalem en 70? Il a été détruit. Parce que Dieu ne supportait plus. Et je voudrais, mardi, mais je vous, à moins que je sois malade, parce que ça arrive, que je sois très fatigué. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous ne voulez pas savoir pourquoi ce Dieu, grand, notre Dieu, qui a dit « il y aura toujours mes yeux sur ce temple », a permis que ce temple soit détruit? Et c'est, il faut le voir, c'est impressionnant, ça fait peur comment le diable a réussi à introduire certaines choses dans le temple pour que le temple soit détruit. Parce que le diable a toujours combattu pour que la maison de Dieu ne soit pas une maison de prière. Ce que le diable, il veut, il s'en fiche des activités, il s'en fiche. Parfois, l'autre jour, on m'a dit, monsieur Gou, il n'y a pas grand monde à la chorale, est-ce que c'est grave? Je pense qu'il y a plus grave. Par contre, que l'église ne soit pas une maison de prière, ça c'est grave. Je pense pas à l'église de Saint-Agne. Un pasteur me disait dernièrement, il y a 8 jours, il n'y a plus personne à la réunion de prière. On a annulé les réunions de prière. Et moi, je pense aux jeunes, à vos enfants que vous allez avoir. Les jeunes, est-ce que vous pouvez vous permettre de dire, ah ben moi, je n'ai pas le temps le mardi. Je vous assure, j'ai vraiment prié pour cette prédication. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important quand même que vous le sachiez, ceux qui me connaissent n'ont pas besoin de le discerner. Mais ceux qui ne me connaissent pas, vous devez vous dire, parce que quelqu'un m'a dit, oui, vous avez dit, je vous dis que, plusieurs fois vous avez, oui, mais quand je dis, je vous dis que, c'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, vous comprenez ce que je dis? Quand je dis, je vous dis, moi, que, c'est pas moi qui le dis, C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je n'ai pas, moi, apporté mes idées, surtout si ce n'était pas de cette idée de travers. Mais une église qui retrouve cette foi vivante, une église où on voit les pécheurs revenir. Moi, je crois que des rétrogrades, peut-être il y en a, que Dieu vous bénisse. Et vous avez le droit, croyez-moi, à prier et à vous repentir dans la maison du Seigneur. Vous avez le droit. Comment ça se fait que tant de chrétiens ne prient pas? Que tant de chrétiens ne prient plus? Je ne parle pas qu'à l'église, mais même chez eux, des chrétiens ne prient plus. Croyez-vous, mes frères et sœurs, que Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons? Un homme qui doute, il ne recevra pas. Nos prières doivent être des prières de foi. Nos prières doivent être des prières vivantes. Nous devons être des vainqueurs. Trouvera-t-il la foi? Vous le croyez que si deux s'accordent, c'est pour ça qu'il faut être, d'accord entre nous. Il faut qu'on soit d'accord. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, notre Père qui est dans les cieux vous l'accordera. On ne va pas faire le listing de toutes les promesses, elles sont innombrables. Dieu a voulu que dans sa parole, il y ait des textes à l'infini pour qu'on comprenne que Dieu exauce la prière. Oui, la maison du Seigneur doit être une maison de prière. Je vous demande de prier pour mardi soir. Parce que je crois que ça éclairera certaines personnes qui ne prient plus, des couples peut-être qui ne prient plus ensemble. Hier, je ne sais pas si j'ai mal entendu, j'ai écouté les informations. Et hier soir, je ne sais pas, je le revérifierai, mais je pense que c'est ça. En France, chaque jour, il y a 383 personnes, couples, qui divorcent. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ? 383 couples qui divorcent par jour. Et quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à tous ces enfants que ça représente. Tous ces enfants malheureux, toutes ces femmes malheureuses, tous ces hommes malheureux. Parce que dans un divorce, quand j'entends moi, quelqu'un qui me dit « j'ai gagné le divorce », personne ne gagne le divorce. Personne ne gagne. Personne. Tout le monde perd. Ne rêvons pas. En fait, ne rêvons pas. Oui, soyons sérieux. Mes frères et sœurs, il y a un combat. Vous vous rappelez quand Moïse était sur la montagne? Vous vous rappelez ce que Dieu a voulu que l'on sache? Quand il était sur la montagne et qu'il levait les mains, que quand il baissait les mains. Vous vous rappelez, c'est une histoire que Dieu a voulu que l'on conserve de génération en génération. C'est écrit. Tu conserveras le souvenir de génération en génération. Bien sûr, ça ne sert à rien de lever les bras. Ce n'est pas une question physique. Ça n'a, dans le cadre du Nouveau Testament, mais ses mains restèrent levées, ses mains restèrent foi. Il a obéi, il a fait ce que Dieu demandait et Dieu a honoré sa foi. Pas une question de lever les bras. Mais ça, c'est franchement, je le dis à un mot pour que ça fasse vite, mais c'est ridicule. Ce n'est pas de lever les bras aujourd'hui qui font que Dieu va exaucer. C'est parce que je persévère dans la foi. Amalek avait choisi d'être contre Dieu. Satan est toujours contre Dieu. Il y a une prophétie dans le Nouveau Testament où il est dit que Satan ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Car croyez-moi, lui aussi n'a pas changé d'avis. Il veut que l'apostasie soit dans les églises. Et dans les églises où il n'y a plus une prière vivante, le diable aura gagné. Vous pouvez dire, oh monsieur, vous êtes négatif. Moi, je vous le dis, si on n'a pas des églises où on prie, le diable gagnera. Et nous perdrons nos enfants. Je ne sais pas si vous voulez que vos enfants aillent en enfer. Moi, je n'ai pas envie que mes enfants et mes petits-enfants, ils aillent en enfer. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, croyez-moi. Il ne veut pas que l'église soit apostate. Vous avez vu les prophéties? Les prophéties, vous les connaissez? On a lu une. 2 Timothée chapitre 3. Regardez ce qui va se passer. Enfin, ce qui se passe déjà, c'est pas la peine de trop. Mais dans le passé, une prophétie. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Vous connaissez, ça fait mal au cœur, mais ça arrive dans l'église, dans notre église. C'est en train d'arriver, et si on ne veille pas, ça va dégénérer sur nos enfants. C'est évident. C'est pour ça, les jeunes, je vous en supplie. Revenez à Dieu et persévérez dans la prière. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On y est dans ces temps, vous inquiétez pas, on y est. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Donc c'est à des chrétiens, parce qu'il n'y a que les chrétiens qui peuvent avoir l'apparence de la piété. Les inconvertis n'ont pas l'apparence de la piété, ils n'ont pas de piété. ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce qu'en plus, il faut faire attention que dans une église, ça ne prenne pas le dessus. Quand un pasteur fait présenter la Sainte Cène à un inconverti, c'est que certainement, cette affaire-là a pris le dessus sur ceux qui ont une véritable piété. Ici, moi, je pense qu'on me renverrait si je faisais un truc pareil. On en parlera demain soir au conseil d'administration. Je pense qu'on me renverrait si je faisais présenter la Sainte Cène à un inconverti. Et vous auriez raison, vous n'avez pas besoin de ça. Mais il y aura l'apparence de la piété. Pour avoir l'apparence de la piété, il faut aller à l'église, il faut prier un peu, il faut lire un peu, il faut aller à l'église, je ne sais pas, la Bible sous le bras, je ne sais rien. Mais l'apparence de la piété, c'est quelqu'un qui... On a l'impression que c'est un chrétien. Mais ce n'est pas parce que je vais à l'église que j'ai une vraie piété. Qu'est-ce que c'est qui fait la force de la piété? Puisqu'il est dit qu'ils en renieront ce qui fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est la repentance et la sanctification. La repentance et la sanctification. Dieu nous demande de nous repentir, oui ou non? Mais moi, je suis convaincu, frères et sœurs, que dans l'Assemblée, au milieu de nous, beaucoup de frères et sœurs doivent vraiment se repentir et ne pas dire, bon, c'est vrai, il a raison, M. Gou, il s'applique à enseigner ces choses, c'est bien. Non, non, non. Vous devez vous repentir. Vous devez dire, c'est terminé. Les jeunes en particulier, vous savez, je pense beaucoup à vous. Je supplie Dieu. Parce qu'écoutez, moi, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Mais moi, je trouve que la vie, elle est difficile. Que s'il n'y a pas la grâce de Dieu, s'il n'y a pas la vie de l'Esprit, c'est encore plus difficile. Et que les jeunes, les moins jeunes, on est dedans, bien sûr. Mais c'est, nous, on a fait la moitié de la course, ou les trois quarts de la course. On a presque fini. Mais les jeunes, élever des enfants, c'est une responsabilité. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une vraie repentance et dire non, c'était pour moi, cette prédication, elle est pour moi, je me repens, je veux redevenir un vainqueur, je veux être cet intercesseur que Dieu veut que je sois. Je parlais d'une activité, bon l'activité, vous la faites pas, c'est une chose, mais un intercesseur, Dieu veut que vous soyez un intercesseur. Je répète ce verset que Dieu m'a imposé ce matin alors que je me posais des questions, je veux que les hommes prient. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons une église apostate? Qui a l'apparence de la piété? C'est pour ça que le diable ne veut pas qu'on parle de repentance. Moi, il y a un monsieur qui m'a dit dernièrement, « Monsieur Gou, vous ne devriez pas prêcher comme ça. Les gens vont partir. Ne prêchez pas sur l'enfer, monsieur Gou. » J'ai écouté, je sais ce que j'ai à faire. Merci pour le conseil. Le diable, il fera tout pour qu'on n'emploie plus certains mots dans l'Église. Le mot repentance, le mot sanctification, le mot consécration. Surtout la sanctification. Le diable, il n'est pas contre les cultes. Il n'en a rien à faire des cultes. Le diable, il est contre la sainteté. Parce qu'il sait très bien que sans la sanctification, nul, personne ou nul, ne verra le Seigneur. Écoutez, ça ne peut pas être plus clair. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pour cela que le diable, mais il s'en fiche qu'on vienne au culte. Par contre, s'il voit des chrétiens qui ont ce souci de se sanctifier, l'œuvre de Dieu se fera. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des chrétiens qui vivent dans le péché, il y a des chrétiens, mais c'est un truc de fou. Moi, j'apprends des choses, des fois, je ne le crois pas. Je vais le vérifier, bien sûr. Un chrétien peut aimer Dieu, enfin aimer Dieu, aller à l'église, surtout, et vivre complètement dans le péché. Il peut aller à l'église et regarder des saletés à la télévision, vous voyez ce que je veux dire, etc., etc. Une église où il n'y aura que l'apparence de la piété est une église qui ne marchera plus dans la foi, qui ne verra pas de victoire. Est-ce que vous voulez des victoires? Moi, je veux des victoires, parce que c'est la volonté de Dieu. Paul, devant le roi Festus, dira, moi, partout où je suis passé, j'ai prêché la repentance. C'était un roi, mais ça aurait été un clochard. Je sais qu'il aurait dit pareil. Partout où je suis passé, j'ai prêché la repentance et la conversion. Ce matin, plusieurs parmi nous, nous avons besoin de repentance. Et nous devons l'accepter. Nous ne cherchons pas des excuses, mais moi je suis crevé, je ne peux pas venir. Nous avons besoin de repentance. Oui ou non? Et c'est une chose profonde, personnelle, intime, si vous le voulez, ce n'est pas grave. Mais une chose est sûre, à un moment donné, il faut dire, c'était pour moi. Ce matin, Seigneur, tu m'as parlé, ça a été peut-être très mal dit, ça a été dit peut-être avec trop de, je sais pas, de ferveur, j'en sais rien. Mais c'était pour moi, cette prédication, c'est pour moi. Je néglige la sanctification, je pense que la repentance, c'est que pour les païens. Non, la repentance, c'est aussi pour les chrétiens, j'espère que vous le savez. Alors Seigneur, je me repens et j'accepte cette prédication. C'était pour moi, je suis en train de me tromper, je ne me rends pas compte qu'avec ma fiancée ou mon fiancé, je ne me rends même pas compte qu'on ne prie pas, on n'a plus de... Eh bien, vous allez perdre ce que vous avez. Parce que vous savez, le diable, c'est un voleur. Et vous savez que c'est vrai. Vous le savez. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est tout puissant. C'est vrai qu'on a un ennemi puissant, mais on a un Dieu tout puissant qui peut tout. Cette foi, cette piété, cette vie de l'esprit, il veut nous la donner, il veut nous la redonner. Nous avons à lutter. Le titre de ma prédication, c'est « Vous avez à lutter ». On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre les gens. On n'a pas à lutter n'importe comment. Il y a des gens parfois qui prient, ça je le dis pour certains, parfois qui prient « Oh, je lutte contre les ténèbres, je lutte contre les dominations ». Quand vous priez, sauve des âmes dans cette ville, ramène les rétrogrades, vous luttez contre les dominations. Ce n'est pas parce que vous dites « je lutte, je combats, j'interdis au diable ». Écoutez, les nouveaux qui entendent ça, ils nous prennent pour des malades. Vous savez que c'est vrai. Un nouveau qui nous entend... Non, quand vous priez pour le salut des gens, « Seigneur, sauve mes enfants », vous luttez contre les dénominations, vous luttez contre les esprits méchants. Ce n'est pas parce que vous dites « je lutte contre les esprits méchants » que vous... Vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous priez, vous luttez. Et nous avons à lutter, pas contre les gens, parce que c'est vite fait, oh celui-ci, celle-là. Ne luttez pas contre les gens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les principautés. Et les principautés, je peux vous assurer qu'eux, ils ne prennent pas de vacances. Eux, ils s'affairent à détruire l'Église. C'est pour cela que nous devons nous unir, que la maison du Seigneur doit être une maison de prière. C'est un principe spirituel. Le repos ne va pas nous amener à rien faire et à la paresse. Au contraire, le repos ne peut que nous amener à dire « Seigneur, mais j'ai la santé. Seigneur, je veux te servir. Alors Seigneur, tu m'as placé dans cette église ? Eh bien, je vais m'impliquer dans cette église. » Alléluia ! Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui disent « Mais c'était pour moi cette prédication, c'était pour moi ce matin, je suis léger, je suis nu, je me rends compte, bien sûr que moi je pense aux jeunes. » Je sais que la grâce que c'est d'avoir plein de jeunes dans l'église, je le sais. Moi quand j'entends les pasteurs qui me disent « J'ai aucun jeune dans l'église », vous savez, ça me fait mal au cœur. Le plus jeune, il a 50 ans. Mais je l'entends ça. J'ai été dans une église dernièrement, le plus jeune, ben, c'était moi. Je me sentais tout jeune. Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur et tous les jeunes de cette église sont partis. Dans cette église, mes frères et sœurs, les jeunes, écoutez-moi, les jeunes, écoutez-moi, s'il vous plaît. Les jeunes, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris que vous avez un rendez-vous avec Dieu tous les jours dans votre chambre? Dans le lieu secret, il y a d'abondantes joies. Les jeunes, je vous en supplie, vous qui avez du temps, je sais que des personnes âgées me disent « Oh, monsieur Gaud, je ne peux pas venir, je suis fatigué, moi mardi, je n'ai pas pu venir. » J'étais dans mon bureau, je priais, tout le long de la réunion, j'ai prié. Je ne sais pas parce que je n'ai pas pu venir que je n'ai pas prié, je ne lui pense pas pour me jeter des fleurs. Mais j'en avais besoin, c'est pas, j'ai dit « Tiens, je vais prier, Jérémy, ils sont en train de combattre, j'en avais besoin. » Est-ce que nous avons besoin de prier? Est-ce que nous voulons voir nos enfants? Je ne sais pas s'il y a des jeunes là qui sont mariés, qui vont se marier. Devant, tiens, vous allez vous marier? Vous allez avoir des enfants? Non, allez, ma future belle-fille qui me déjà commence. S'il vous plaît, sérieusement, les jeunes, écoutez-moi les jeunes, regardez-moi. Vous voulez fonder un foyer, Émilie? C'est Émilie, Camille. Sérieusement, les jeunes, je vous en supplie. Je vous le dis de la part du Seigneur, venez combattre. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Que vous ne pourrez pas dire un jour, « Pasteur, tu ne nous l'as pas dit. » Vous ne pourrez pas le dire. Quand vous passerez devant Dieu, vous ne pourrez pas dire, « Monsieur Gaud, vous auriez dû insister. » Parce que c'est ce qui va arriver. Vous auriez dû insister, Monsieur Gaud, vous n'avez pas été un pasteur droit. Vous auriez dû nous le dire. Parce que la Bible le dit, vous auriez dû. C'est ça qui va arriver. Je vous assure, mes frères et sœurs, c'est ça qui va arriver. Et je ne veux pas qu'on me le dise. Je ne veux pas avoir ce reproche. Je vous le dis de la part de Dieu, je vous en supplie. C'est vrai que ce matin, je pensais qu'aux jeunes, parce que je sais que les aînés, beaucoup ont fait leur part, et que c'est peut-être aux jeunes maintenant à soutenir les aînés. Non ? C'est aux jeunes à dire, voilà, le mardi, c'est non négociable. Le mardi, il y a une heure de prière, c'est la maison de prière. Oui, vous habitez loin, mais vous avez fait le choix de venir ici. Alors vous venez ici le mardi. Et s'il faut marcher un peu, s'il faut tourner un peu, tant pis. Est-ce que ça ne vaut pas la peine que c'est les sœurs qui ont conjoint converti se convertissent? Est-ce qu'on peut croire que M. Régnier il peut faire une expérience avec Dieu? Ça fait 13 ans qu'il est dans le coma. 13 ans! Est-ce qu'il peut faire une expérience avec Dieu? Moi, je le crois. On a plein de jeunes. Combien de jeunes ce soir seront morts? Des gens qui sont en train de faire la brinque. Tous les jours, il meurt 350 000 personnes sur la Terre. Alors, on ne va pas faire un tableau. Mais les jeunes, moi, je vous le dis. Je ne veux pas que dans le ciel. Vous me disiez, monsieur Gault, vous n'avez pas été un pasteur droit. Je vous le dis de la part de Dieu. Venez prier. Je ne vous dis pas, faites une activité. Je vous dis, venez prier. Parce que Jésus a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Parce que le combat, il est là. Et parce que le diable, il prendra le temps. Vous savez, je termine avec cette pensée, parce que le temps me le permet. Vous savez, il nous arrive de voir des chrétiens naviguer. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On est des églises, on n'est pas des sectes. Bon. Mais on a vérifié que beaucoup de chrétiens qui naviguent. Alors nous, on est contents d'accueillir les gens, c'est pas un problème, le problème il n'est pas là. Mais souvent, ils n'ont pas réglé les problèmes. Et c'est comme les divorces, hein, c'est un peu pareil. Il faut régler le problème. Parce que moi, je suis content quand on me dit, tiens, telle personne ne vient plus à Saint-Anne, mais elle va là-bas dans telle église, c'est bien. Elle va dans une église, elle continue à entretenir son salut. Mais laissez-moi vous dire que quand on part, qu'on n'a pas réglé des problèmes, on finit par rétrograder. Est-ce que vous comprenez? Et ce sont des choses qu'il faut dire. Alors c'est vrai qu'il faut les dire intelligemment, mais il faut les dire. C'est comme tous les gens qui ont fait des divisions et qui n'ont pas réalisé le mal qu'ils pouvaient faire. Et je crois que ce sont des choses, il faut les enseigner. Je crois que Dieu pardonne, je crois que Dieu bénit, mais je crois qu'il y a une priorité. Ma maison sera une maison de prière. Et je vous demande de prier pour moi pour mardi. Ce qu'on va voir, si ce n'était pas écrit dans la Bible, vous ne le croiriez pas. Peut-être que vous l'avez lu, peut-être que vous ne l'avez pas lu, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais vous allez voir comment le diable, il est fort pour introduire dans l'Église des choses qui n'ont rien à faire. Ça ne serait pas écrit, plusieurs me diraient, monsieur Gault, vous avez été fou. Mais c'est écrit, et vous verrez combien c'est grave. Alors j'aimerais qu'on se recueille. Les jeunes, fermez vos yeux. Je voudrais que vous répondiez, parce que je sais que des jeunes, vous allez bientôt vous marier. Vous êtes l'avenir de l'Église. Si Jésus tarde, comme je l'ai souvent dit, mais quelle Église allez-vous donner à vos enfants? Vous qui trouvez deux heures pour regarder un film, deux heures pour aller au cinéma, une heure pour aller dans un restaurant, vous ne pouvez pas trouver une heure. Être là 7h15, 7h20 et dire on va se battre, on va lutter. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Vous avez à lutter. Si vous n'avez pas accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur, c'est clair que cette prédication, elle va vous énerver, elle va vous déranger. Eh bien, acceptez Jésus comme Seigneur. Et vous saurez ce que c'est que d'avoir la joie, je répète, la joie de connaître Dieu comme Seigneur. Les jeunes, je vous en supplie, de la part de Dieu, bien sûr que moi, je n'ai pas envie qu'on me reproche certaines choses, mais j'ai surtout aussi envie de voir cette ville visitée par Dieu. Que le Saint-Esprit s'empare de notre Église et que les âmes soient sauvées. Et que vraiment sa maison, ses maisons, à Colomiers, au Minimes, à Toulouse-Ouest, partout, à Villemur, à Muret, mais partout, les églises, les communautés redeviennent toutes des maisons de prière. Et peut-être il faut que ça commence ici. Et bien, qui sait? En tous les cas, mes frères et sœurs, Jésus a donné cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et là, vous devez être capable de répondre, mais c'est vrai, je n'ai pas écouté la voix du bon berger. Je le chante, c'est des beaux cantiques, des belles mélodies, mais j'ai écouté la voix du diable. Soyons sérieux, il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. J'ai écouté la voix du diable, et ça ne me satisfait pas. Je vais écouter la voix du Seigneur. On va prier, on va terminer en priant, mes frères et sœurs, mais en priant avec ferveur, de demander de l'aide à Dieu. On n'est pas là pour s'auto-flageller, on est là, Seigneur, aide-nous. Prions. Notre Père, notre Dieu, tu nous as laissé ta sainte parole. Non seulement tu as tout accompli au calvaire, et en plus tu as permis que nous ayons dans notre langue ta parole. Seigneur Jésus, nous te supplions de nous aider. Tu vois où nous en sommes. Tu vois tous ceux qui dans l'Église se sont fait piéger et ne sont même pas rendus compte qu'ils avaient préféré la parole de Satan à ta parole. Seigneur, nous te demandons pardon. Tous ensemble, nous te demandons pardon. Et puisque nous avons fait le choix de venir dans cette église, fais en sorte que tous les chrétiens de cette église deviennent une armée de prières. Même si nous ressemblons à des ossements desséchés, on sait ce que tu peux faire avec des hommes qui obéissent à ta parole. Nous le voulons pour le salut de notre génération. Nous le voulons non pas que pour nous, puisque nous sommes sauvés, mais Seigneur, nous le voulons pour nos enfants, pour nos rétrogrades, pour nos amis qui ont abandonné les voies, pour les rétrogrades que tu aimes et que tu veux sauver. Seigneur, que ton bon esprit parcourt cette ville. Bénis le culte de cet après-midi. Bénis Jérémie. Renouvelle mes forces également, afin que je puisse reprêcher comme tu le voudras. Seigneur, bénis nos églises, bénis ce pays. Oui, que ta maison redevienne une maison de prière. Et que quand tu reviendras, nous ayons la joie, cette assemblée de Saint-Agne, de voir que nous avons gardé la foi sur la terre. Merci Seigneur Jésus.